Bon, le problème de ces Parchiotes, c'est qu'elles sont toutes beaucoup trop riches. Alors ici, comme Méhitros, c'est un personnage important. Et la Torah, elle nous dit beaucoup de choses ici, dans cette première phrase. Vaishma Yitro, il est Cohen Midian, il est Choten Moshe, le beau-père de Moshe, et il a entendu et Kol Asher Asa Elokim le Moshe, ou l'Israël Amo. Il a entendu tout ce que Elohim a fait pour Moshe et son peuple. Qui, car, aussi Hachem est Israël, mais Mitzrayim. Qui peut dire car, mais aussi au Kacher, lorsque, tout ce qu'il a fait, lorsqu'il a sorti, lorsque Hachem a sorti Israël de Mitzrayim. Alors, par exemple, on ne va pas parler de ça maintenant, mais quand vous regardez la phrase que il a entendue, Kol Asher Asa Elokim, le Moshe, ou l'Israël Amo, qui hotzi Hashem et Israël Mimitzrayim. Pourquoi on change de nom? D'accord? Pourquoi on dit d'abord Elokim et après le tétragramme? Ma pitom. Bon, alors, je vais de nouveau utiliser un enseignement de David Feinstein. Alors, on parle d'Yitro. Alors, en fait, Yitro, Razal nous disent que c'est initialement, Yitro faisait partie du conseil restreint de Paro. Paro avait trois conseillers, Yitro, Bilam et Job. C'est Bilam qui a donné le conseil de noyer les garçons. Et quand il a donné ce conseil, Yitro n'était pas d'accord. Mais on ne pouvait pas s'opposer, alors Yitro est parti. Il a quitté le conseil et il a fui. Il est devenu persona non grata en Mitzrayim. Et comme c'était un très grand bonhomme, vous pouvez imaginer la grandeur du bonhomme, n'oubliez pas, il est dans le même conseil que Bilam. Bilam, c'est le prophète des nations. À la fin des temps, les nations vont dire à Hachem, si tu nous avais donné quelqu'un comme Moshe, nous aussi on aurait été bien. Alors Hachem dit, mais je vous ai donné Bilam. Donc on est obligé de dire que Bilam, il est comparable à Moshe, parce que si Bilam est un petit bonhomme, alors c'est pas, Hachem n'a pas donné de réponse au peuple. Les gens disent, si tu nous avais donné, je vous ai donné Bilam. Oui. Tu nous as donné un minus par rapport à Moshe, donc il faut dire que Bilam avait de quoi faire pour les Omot Haolam ce que Moshe a fait pour les Bnei Israël. Mais évidemment, il était, par ailleurs, on peut être très grand, d'une certaine manière, enfin avoir une certaine grandeur, et être pourri. Ça non plus, c'est pas une contradiction. C'est possible. L'être humain, il est capable de ça. Ce qu'était effectivement Bilam. Et Yitro, c'est quelqu'un qui a eu une recherche. Hazal dit qu'il a tout essayé. Et il est arrivé finalement à la conclusion que il a reconnu Hachem et il est venu, il vient là maintenant rejoindre son gendre, Moshe. Alors, quand est-ce qu'il est venu exactement? C'est une grande discussion. C'est sûr qu'on va le voir plus loin. Il est venu après la sortie d'Égypte. Il est venu après le passage de la mer. Et il est venu après la guerre contre Amalek. Ça, c'est sûr. La question est de savoir, est-ce qu'il est venu avant ou après Aseret HaDibrot? Et c'est une question parce que quand lui est venu, alors il est venu, avec, sont venus avec lui Tzipora, sa fille, mais la femme de Moshe, et les deux enfants de Moshe. Ça veut dire que, de toute manière, il y a cette situation tout à fait étrange. Que la femme et les enfants de Moshe, ils n'étaient pas là ni à la sortie d'Égypte, ni au passage de la mer, ni à Milchemet Amalek en tout cas. Et ils étaient peut-être même pas là à Matan Torah. C'est la femme et les enfants de Moshe, les seuls, dans le cas d'Israël, à ne pas avoir eu la même, enfin, le même, les mêmes expériences que tous les autres. Alors voilà, c'est ça, Yitro. Et on nous parle ici, Vaishma Yitro. Alors Abdovid dit comme ça. Yitro, il avait déjà cessé de croire en l'idole, enfin d'être idolâtre. Mais il y avait encore un point sur lequel il se trompait. Qu'il croyait encore que chaque peuple a un dieu. Exactement, donc chaque peuple a un malach, il a un être spirituel, chez Shomer Alav Velochem Avuro, qui le protège et qui fait la guerre pour lui. Comme c'est marqué dans le Sefer Daniel, c'est marqué que chez Amalar Gabriel Amar, le Malar Gabriel a dit à Daniel, il lui a dit, Shani yotze leilachem neged Amalar shemune liyot sar shel paras. Gabriel a dit, je viens lutter contre l'ange qui est préposé à jouer le rôle du dieu des Perses. Mais quand l'ange qui est préposé à être le protecteur de la Grèce viendra affronter Perse, là, moi, je ne lutterai pas contre lui. Et on voit que donc chaque peuple a un avocat, en quelque sorte, dans le ciel. Et c'est cet avocat, ce malard, qui protège le peuple, et qui, devant le tribunal céleste, est l'avocat de la défense de ce peuple. Il défend ce peuple chaque fois. Ça, c'est ce que pensait Yitro, et a priori, c'est vrai. Sauf que, la question c'est, est-ce que ce malach-là, il est autonome ou pas? Yitro pensait qu'il était autonome. Donc nous, on pense aussi qu'il existe des choses comme ça, mais qui ne sont pas du tout autonomes. Ils sont guidés par Hachem. Si vous voulez, moi personnellement, cette situation-là, je me raconte que le malheur en question, c'est ce qu'on appelle, ce qui s'appelle la culture du peuple en question. Donc, ça veut dire, c'est un peuple qui le protège, ça veut dire, c'est un peuple qui, par exemple, par rapport à tout ce qu'Hachem donne dans le monde, la culture de chaque peuple est en fait ce qui va permettre à ce peuple de recevoir le flux des bontés d'Hachem. Et il va le recevoir avec sa spécificité. Si vous voulez, il va falloir qu'il l'entende, qu'il le reçoive dans sa langue. Il va le recevoir avec sa musique, avec sa danse, avec sa nourriture, avec certaines, son folklore, avec les caractéristiques, c'est le peuple, il est plus comme ci, plus comme ça, etc. Ses midot, son ensemble de bonnes midot et son ensemble de mauvaises midot. Et donc, en fait, chacun va recevoir à sa manière. Donc, les Slaves, ils ne vont pas recevoir de la même manière que les Français, ni les Français que des Anglais, etc. De la même manière, d'ailleurs, mais bon, c'est un autre niveau, mais c'est la même chose pour les tribus. Les tribus, quand elles ont passé, les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé chacun par un canal différent. Ce n'est pas qu'ils ont passé toutes de la même manière. Chacun a vécu la sortie d'Égypte à sa manière, avec la spécificité de chacune des tribus. Et par la suite, ils vont recevoir la Torah, mais là, c'est à l'échelle individuelle. Chaque personne va recevoir la Torah, et on va voir qu'ils reçoivent la Torah et chacun va le recevoir. C'est marqué quand on dit que les Bnei Israël roïm et hakolot, ils ont vu les voix. C'est quoi ces voix? Razal disent que les gens, ils entendaient des voix qui venaient des quatre coins du monde et qui venaient du ciel ou qui venaient de la terre. Et les vieux, ils entendaient un vieux qui leur parle. Les jeunes, un jeune qui leur parle. Une femme, elle entendait une femme qui lui parle, etc. Chacun a entendu. Ça veut, en d'autres termes, on sait très bien, là, vous qui m'écoutez, ceux qui écoutent, etc., chacun d'entre vous entend ce que je raconte à sa manière. Il le filtre. Bon, ça veut dire, il y a des trucs bon, que vous laissez passer, des trucs que vous pensez non, c'est pas ça. C'est comme ça fait partie de. On a une tout le monde a une écoute sélective. C'est toujours comme ça. Et donc, Yitro, lui, il pensait que ces forces-là étaient autonomes. Et il vient d'apprendre que ce n'est pas vrai. Il vient d'apprendre. Là, on va nous dire, il vient d'apprendre que Hachem n'est pas le malach du peuple juif, en fait. Ce n'est pas du tout ça. Il est au-dessus de tout ça, qu'il n'est pas du tout comme un malach de ce genre-là. Alors il dit comme ça. Donc il y a ce problème, est-ce qu'ils sont autonomes ou pas? Lui, il pensait que c'est qu'ils sont autonomes. Mais en vérité, ils ne sont que des avocats qui vont pouvoir plaider au tribunal céleste en faveur de leur peuple, du peuple qu'ils représentent. Mais la décision finale, la force qu'ils ont, ne leur vient pas d'eux-mêmes. La force, elle vient du Ribbono shel Olam, elle vient du Maître du monde. Donc quand Yitro a entendu Et kol asher asa Hashem le Pharaon ou le Mitzrayim, quand il a entendu tout ce qu'Hashem a fait à Paro et à l'Égypte, Ki hotsi et Israël, Hashem et Israël mais Mitzrayim, il a vu que sa émouna, c'est-à-dire sa croyance à toutes ces forces-là, comme si elles étaient autonomes, que son idée était fausse. Qu'en fait, ces forces-là sont soumises à la volonté d'Hachem. Alors le verset, il faut le lire très, très attentivement. Yitro a entendu et kol asher asa, tout ce que le Ribbono shel Olam a fait, pour Moshe et les Bnei Israël lorsqu'il a sorti les Bnei Israël d'Égypte. Ça veut dire que le mot qui, ici, qui rotsi, il faut le lire Kaacher, lorsque Hachem. Et Rashi sur place, Rashi dit, Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce que Yitro a entendu qu'il a fait bouger et venir chez Moshe? Et Rashi dit deux choses, Kriat Yamsouf et Milchemet Amalek, le passage de la mer et la guerre contre Amalek. Les Chachamim, ils ont. D'où est-ce qu'ils ont su que c'était ça? D'où est-ce que Rachid le sait, les Chachamim? D'où ils le savent? Alors d'abord, parce que la paracha d'Yitro est juxtaposée, tout ce qu'on a dit en dernier, c'est Milchemet Amalek. La fin de Béchalar, c'est Milchemet Amalek. Et puis aussi, dans Kriat Yamsouf, après, c'est marqué, dans la Shira, sur Kriat Yamsouf, c'est marqué Shamu Amim. Tous les peuples ont entendu. Tout le monde a entendu Kriyat Yamsouf. Et donc, ça, il l'a entendu, et la Torah nous dit qu'il l'a entendu, alors on peut dire, il a entendu. Il a entendu Amalek, et il a entendu la guerre contre Amalek, et il a entendu Kriyat Yamsouf. Et il a entendu ces deux choses-là, en particulier, et dans cet ordre-là, Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Pourquoi? Parce que ces deux miracles-là, ils sont plus importants, plus grands que tous les miracles qu'il avait entendus par ailleurs. Et donc, il faut qu'on aille regarder. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va expliquer qui Hotsi Hachem et Israël mais Mitzrayim lorsque Hachem a sorti les Bnei Israël d'Égypte? Kriyat Yamsouf, avec un rapport avec la sortie d'Égypte, on comprend bien. Kriyat Yamsouf, d'une certaine manière, c'est la dernière étape de la sortie d'Égypte. Après Kriyat Yamsouf, les Bnei Israël n'ont plus de rapport avec l'Égypte. Jusque-là, ils étaient encore à portée de main de l'Égypte. Là, maintenant, c'est terminé. C'est le Gmar, la fin de la sortie. Mais qu'est-ce que Milchemet Amalek a à voir avec la sortie d'Égypte? Milchemet Amalek, c'est autre chose. En quoi est-ce que Milchemet Amalek, c'est aussi un des moments de la fin de la sortie d'Égypte. Sur le passouk et kol asher asa Elokim le Moshe l'Israël amo, le mot kol, pourquoi avoir dit kol? Kol, c'est toujours les rabot, ça vient toujours englober quelque chose de nouveau. Et Rashi dit sur place, ils disent ce que Hazal disent, que c'est quoi? Il a entendu Yerida Taman, donc la pluie de la manne, quoi. Le puits de Myriam, le fait qu'ils avaient de l'eau en permanence qui circulait avec eux. Ou Milchemet Amalek. Donc Razal ont mis, nous on s'attendrait à ce qu'on dise quoi en troisième, les nuées de gloire en fait. Bon, c'est traditionnel, que l'Aman c'est Moshe, le Béer c'est Myriam, et les nuées de gloire c'est Aaron. Et là, Chazal disent, Kol Asher, troisième chose, Milchemet Amalek. Ces trois choses-là, elles n'ont visiblement rien à voir avec la sortie d'Égypte elle-même. C'est la situation des Bnei Israël dans le désert. Et on dit clairement que Milchemet Amalek, c'est ce qu'Hachem a fait en même temps que la manne et le Béer, donc c'est pas Yetziat Mitzrayim. Alors, il dit lui-même, je ne sais pas finalement pourquoi les Chachamim ont mis un Milchemet Amalek dans ce groupe-là. D'autant plus que Milchemet Amalek, c'est marqué que ça appartient à ce que Vaishma Yitro. Chazal ne peut pas dire à la fois Vaishma Yitro, Milchemet Amalek, et puis que le Kol Asher Asa, c'est Milchemet Amalek. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on admet que la manne et le béer sont des choses fondamentales qui sont incluses par le mot col, il faut quand même se demander pourquoi ces nissim-là, de la manne et le béer, elles sont dans Kol Asher Asa, alors que le Kol Asher Asa, en vérité, c'est des choses qui sont tafel, qui sont secondaires par rapport à ce que Ishmaël, à ce que Yitro a entendu de fondamental, qui est Amalek et Kriyat Yam Souf. Pardon?
Alors,
Alors, on va en parler. Alors, il y a quelque chose de très important dans ce qu'on appelle la Emouna, c'est-à-dire dans la confiance en Hachem. C'est-à-dire ces deux points, Kriyat Yam Souf, Milchemet Amalek, ont montré à Yitro ce que Yitro a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais maintenant qui gadol Hashem mikol à Elohim, que Hashem est plus grand que tous les Elohim. Alors, il y a deux points fondamentaux dans la Emouna. Il y a que, premièrement, en od milvado, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors d'Hashem. Il n'y a que lui et personne d'autre. Et le deuxième point fondamental dans la Emouna, c'est la Hashgacha, c'est la providence. C'est dire que le maître du monde surveille le monde entier. Il surveille, ça veut dire qu'il s'occupe du monde entier. Contrairement à ce que la théorie qui disait que Dieu a créé le monde, il l'a mis sur orbite et puis voilà, qui se débrouille. Mais en fait, il faut se souvenir que la sortie d'Égypte, ça n'était pas seulement une action, prendre les Bnei Israël et les faire sortir d'Égypte. C'est pas simplement. Les Bnei Israël étaient en fait prisonniers des Égyptiens et que Hachem a eu pitié d'eux et les a sortis de là-bas. C'est pas seulement ça. Mais c'était une action spirituelle, en fait. Il fallait sortir les Bnei Israël, pas seulement physiquement les sortir d'Égypte. Il fallait sortir les Bnei Israël de l'influence de la pensée égyptienne. Ça faisait 210 ans qu'ils étaient en Égypte. L'Égypte était la puissance dominante, aussi la culture dominante à l'époque. Et donc, bien sûr que ils ont été entraînés à penser comme les maîtres, comme les Juifs à l'époque, après Alexandre le Grand, où tout le monde pensait grec. Ben, les Juifs, ils ont pensé grec aussi. Donc, il faut penser qu'Hachem les a fait sortir de la pensée égyptienne, de la façon de voir le monde égyptienne. Mais ça, il l'a fait progressivement, bien sûr. Au début, il fallait leur montrer que Hachem est présent. Quand vous êtes complètement soumis au maître, aux Égyptiens, bah, Hachem, il n'est pas là, quoi. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle Gilou Shrina, dévoilement de la présence divine, pour montrer qu'il était vraiment là. Et le Gilou Shrina en question, le Gilou Shrina en question, il a eu lieu de façon à ce que on puisse pas dire autre chose que ça, c'est le dévoilement de la présence divine. Ça a eu lieu avec Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, c'était pas possible de dire, vous comprenez, on va le voir explicitement, mais dans les Makot, Hachem a montré qu'il était là, sur terre, dans l'air et dans l'eau. Mais on peut toujours dire oui, d'accord, il peut faire, peut changer l'eau en sang. Mais est-ce qu'il peut nous donner à boire? Il nous donne à boire, est-ce qu'il peut nous donner du pain? S'il nous donne du pain, est-ce qu'il peut nous donner de la viande? Chaque fois, on peut dire, ok, il a un domaine dans lequel il est puissant, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout puissant. Il peut toujours dire que oui. Il a une grande puissance, mais pas, il est pas omnipotent. Il peut pas tout faire. En Kriyat Yamsouf, on pouvait pas raconter autre chose. Visiblement, c'était pas possible de dire autre chose. Ribbono Shel Olam il nous a montré qu'il avait cette force de fendre la mer. Parce que rien ne peut faire pareil. Donc, et même au moment, à l'époque où effectivement il croyait à la magie, etc., donc personne, il y a quand même Marie, il a fallu un moment où des limites de la magie. Donc, il ne pensait pas que qui que ce soit pouvait faire ça, même avec la magie, même. Kriyat Yamsouf, ça leur a montré que, OK, dans les Makot, justement, les Mitzrim, pendant un certain temps, certaines Makot, ils pouvaient faire la même chose avec la magie. Quand ils sont arrivés, à les Kinim, ils ont dit à Paro, nous, on est les grands spécialistes de la magie, et ça, on ne peut pas faire. Parce qu'il y a une règle, je ne sais pas quoi, que la magie, on ne peut pas la pratiquer sur les choses qui n'ont pas un volume minimum. Et les Kinim, c'est trop petit, on ne peut pas faire ça. Donc, ils ont dit à Paro, Etzba Elokim, ça, c'est le doigt de Dieu. Mais Paro, il ne les a pas écoutés. Donc, ils lui ont dit, c'est un dévoilement de la chaîne. Mais il n'a pas écouté. Parce qu'il se disait, OK, c'est la limite de ce qu'on peut avec la magie. Mais ça, c'est peut-être aujourd'hui. Mais peut-être demain, dans 10 ans, dans 100 ans. On sera capable, avec de la magie, d'en faire autant. Et donc, il n'est pas tout-puissant. Je peux toujours raconter que nos limites sont des limites provisoires. C'est juste, jusqu'à présent, on sait faire ça, on ne sait pas faire plus. C'est vrai que, bon, on a découvert toutes sortes de choses, des savoir-faire qu'on n'avait pas avant, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de situations où on voit que avant ils faisaient des choses autrement, mais ils arrivaient à faire des choses qu'on ne sait pas vraiment bien faire aujourd'hui. Donc il y avait toujours des gens en Égypte, et des Juifs aussi, pour dire que bon, ça ne prouve rien. Les Makot, ça ne prouve pas vraiment les choses. Mais après la mer, là-bas, c'est marqué Veyaminu Bachem ouve Moshe Avdo. Ça, c'est un Gilou Shrina, c'est un dévoilement de la présence divine, que personne ne pouvait contredire. Donc, quand Yitro a entendu Kriyat Yamsou, il a décidé, il a compris que ça, c'est la vraie force, c'est le vrai pouvoir, parce qu'il n'y en a pas d'autre dans le monde qui puisse faire ça. Et donc, il a compris que toutes les forces qui existent dans le monde, donc tous les malachim en question qui protègent chacun son peuple, tout ça, c'était gouverné ultimement par le Ribon Shel Olam. Mais après qu'on ait vu ce dévoilement à Kriyat Yamsouf, alors les gens étaient prêts à vivre une vie standard. C'est-à-dire, ils pensaient que le Ribbon Shalom, il n'est pas prêt à dévoiler sa présence dans le quotidien, à tout moment. Il voulait nous donner des épreuves et il voulait que dans tout le courant, nous soyons capables, dans le quotidien donc, de le reconnaître dans le courant. Nous faisons des brachot tous les jours. On fait tous les jours, tous les matins, on fait une bracha sur Baruch Ata Hashem, Pokeach Ivrim. D'accord, il ouvre les yeux des aveugles. Quand on met nos vêtements, on dit Malbisharumim. Hashem veut qu'on le reconnaisse. Baruch Atah là-dessus, sur chaque chose, dans la nature la plus courante, que tout est du fait d'Hachem. Et ça, c'est ce qu'a montré Milchemet Amalek. C'est vrai que après Kriyat Yamsouf, il y avait la manne, il tombait tous les matins. Il y avait le béer de Myriam, avec ce rocher qui produisait de l'eau, qui avançait avec eux. Ces choses-là sont effectivement complètement surnaturelles, bien sûr. Et donc, ça devait aider à faire confiance, donc à développer la Emouna dans le Ribbon Shel Olam. Mais malgré tout, c'était toutes des situations qui n'étaient pas comparables à Kriyat Yamsouf. Il fallait qu'on arrive à comprendre que Hachem était présent dans le quotidien, pas seulement dans les choses spirituelles. Parce que c'est ça le but de l'exercice, c'est de reconnaître Hachem partout. Le monde n'a pas été fait pour qu'Hachem se dévoile. C'est pas ça le but de l'exercice. Le monde a été fait pour qu'il y ait une réalité matérielle, celle qu'on voit tous les jours. Le monde a été créé pour que, effectivement, il y a des gens qui vont être malades. Et que quand quelqu'un est malade, Eh bien, on va prier pour demander à Hachem de le guérir. Et quand il sera guéri, on va remercier Hachem de l'avoir guéri. Et lui-même, je ne sais pas, le cas échéant, il va faire, il va faire la bracha d'Agomel. Hachem a fait tout ça pour que nous le reconnaissions comme ayant fait tout cela. C'est lui qui a, il a vraiment fait. Comme on dit dans le matin, dans la prière, dans les brachot du matin, reconnaître que tout est fait par Hachem. Ça, c'était le sujet, enfin, c'était le travail que devait faire Milchemet Amalek. Pourquoi? Parce que le Milchemet Amalek, c'était une guerre complètement matérielle. Yoshua était sur le terrain, il avait choisi des guerriers, qui n'avaient probablement aucune expérience, mais il avait choisi des guerriers qui allaient faire la guerre contre des guerriers, les guerriers d'Amalek. Ça veut dire que la guerre contre Amalek, c'est l'expression du Ayadaim Yedeesav, c'est les mains d'Esav. On était confrontés aux mains d'Esav. Ayadaim, c'est matériel. Amalek est arrivé faire la guerre avec un savoir faire la guerre, avec toutes sortes d'armes pour faire la guerre. Donc c'est clair que les Bnei Israël, ils gagnaient quand Moshe Rabbeinu indiquait le ciel, alors eux aussi, ils priaient, quoi. Et à le contraire, quand ils baissaient, Israël perdait. Amalek y gagnait à ce moment-là. Donc les Bnei Israël tombaient à ce moment-là. Et malgré tout, la guerre était complètement matérielle. Et finalement, le bilan de la guerre, c'est Vayachalosh Yoshua et Amalek. On ne dit pas que Moshe, etc. Non, c'est Yoshua qui était sur le terrain. Il a vaincu. C'est une victoire des armes, par les armes en quelque sorte de Yoshua. Amalek pensait, dans le monde complètement matériel, il pensait que c'était ça la réalité, qu'il n'y avait pas de monde spirituel. D'après ça, il faut expliquer le Chazal qui disent Kolzman shayu mistaklim klape mala ayu. Pourquoi? Parce qu'on est dans une guerre matérielle. Comment se fait-il que quand ils regardaient vers le haut, ils gagnaient? Ça n'existe pas. Dans les manuels de guerre, on ne dit pas aux soldats, si vous regardez vers le haut, vous allez gagner. Et sinon, vous allez perdre. Et lorsque les Bnei Israël ont levé les yeux vers le monde spirituel, en quelque sorte, et que dans leur esprit, pendant ce moment-là, le monde matériel, n'avait plus aucune importance pour eux, alors Israël gagnait. Ça veut dire, à ce moment-là, c'est Hakol Kol Yaakov. C'est ça c'est la puissance de Hakol Kol Yaakov. Les mains d'Esav, à ce moment-là, elles étaient impuissantes. Et si on pose la question, Aïe Hachem, où était Hachem? Où est-ce qu'il était, la Shoah, 7 octobre, etc., l'Inquisition, tout. Là-bas, la réponse, c'est Hakol Kol Yaakov. Il faut utiliser dans la guerre contre Amalek, Hakol Kol Yaakov. Il faut penser que même dans la guerre la plus matérielle qui soit, il faut faire triompher à Kol Kol Yaakov. Mais quand Moshe Rabbeinu baissait les bras, alors les guerriers juifs, en fait, ils se mettaient à donner de l'importance au monde matériel. Immédiatement, Amalek gagnait. Mais ultimement, ils ont battu Amalek, comme on a vu dans le verset. Et le Ficharev, par l'épée, ça veut dire ils ont gagné. Mais c'était quoi les armes des Bnei Israël? C'est vrai que c'est marqué qu'ils sont sortis de Mitzrayim Chamushim, armés. Mais là, quelles armes ils avaient pour faire la guerre contre Amalek? Ils étaient quand même dans une situation où ils étaient. C'était une guerre avec Rabbim contre Mehatim, comme la guerre de Hachmonaïm. Alors, ce n'était pas vraiment Mehatim Mamash, ce n'était pas une famille. Hein, les Hachmonaïm, ils ont commencé, c'était une famille contre le reste du monde, quoi. Mais malgré tout, en fait, ce qu'il y avait, c'est que les Bnei Israël, ils étaient en qualité, ils étaient moins, en qualité de guerre, ils étaient moins importants que les gens d'Amalek. Donc, dans une guerre matérielle, ils étaient comme s'ils étaient inférieurs numériquement. Normalement, ils n'auraient pas dû tenir contre la guerre d'Amalek, contre les guerriers d'Amalek. Mais c'est finalement à Kol Kol Yaakov qui a gagné, et qu'il a gagné donc contre Yadaim et Esav. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les Bnei Israël ont reconnu que la Gashmiout, que le monde matériel, est dans les mains d'Hachem aussi. Que c'est lui qui dirige tout ça. Donc la guerre d'Amalek, c'est la chose qui a montré à Yitro qu'il y a une Hashgacha Pratit. Ribon Shel Olam, c'est lui qui dirige le monde. Et que pour avoir confiance dans l'existence d'une providence, il faut acquérir des voies, des chemins de Emouna. C'est-à-dire, il faut développer des raisonnements, des chemins de confiance adapté à toutes les circonstances. Ça veut dire, des fois, on est dans une situation où on n'est pas en bonne santé. Il faut une émouna qui puisse affronter la maladie. C'est pas la même émouna qui affronte les situations où tout va bien. Si quelqu'un a des difficultés de parnassa, ben il faut développer une stratégie d'Emouna qui permette de tenir le coup dans ces situations de difficulté de la parnassa. Quand on est en danger à cause des ennemis, il faut développer une Emouna ad hoc. Si on n'a pas construit ces chemins d'Emouna, alors on va mettre sur le compte des événements. C'est l'histoire du monde. Tout ça, c'est du hasard. C'est pour ça que le Ribbono shel Olam, il a amené cette guerre contre Amalek pour nous montrer qu'il y a une Hashgacha Pratit, et qu'il y a une providence, et que le Ribbono shel Olam dirige toutes les choses, les petites et les grandes choses. et que le clan d'Israël est arrivé à cette reconnaissance, cette connaissance donc. Et quand ils sont arrivés là, ils ont atteint un niveau de confiance en Hachem qui était suffisant pour accepter la Torah. Ben, à ce moment-là, ils sont devenus Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme. Il y a eu un peuple avec un seul cœur. Ceux qui ont vu le dévoilement de la présence divine à la mer, qui sont arrivés à un degré de Emouna maximal en Hachem, et ceux qui avaient eu encore besoin de la guerre contre Amalek pour se persuader, pour bien accepter de voir que c'est Hachem qui gouverne, compris dans le quotidien, tous étaient prêts à ce moment-là à recevoir la Torah. Donc du coup, tout le peuple ont vu cette grande lumière à Or HaGadol, c'est-à-dire ils ont vu comment le Ribbono shel Olam gouverne le monde. Et de Kriyat Yamsouf jusqu'à Milchemet Amalek, ils ont eu le mérite, grâce à ça, à voir Hachem dans le monde matériel. Et du coup, dans la lecture du verset qui parle d'Yitro, au départ, on présente Yitro Cohen Midian. C'est-à-dire, il avait besoin d'une preuve qu'Hachem est présent. Et cette preuve, c'était ou bien un miracle qui dépasse tout ce à quoi on peut penser, pour montrer que il est plus grand que tous les Elohim, comme ce qu'a fini par dire Yitro. Il voulait savoir, est-ce qu'il y a là quelque chose de plus que ce qu'il y a partout ailleurs, de toutes les autres divinités, etc. Est-ce que ça dépasse ce que les autres racontent, même si ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est plus grand que ce qu'ils avaient à Midian? Il a vu Kriyat Yamsouf. Milchemet Amalek. Mais tout ça, c'était quand il était encore Cohen Midian. Mais finalement, il va se rapprocher de Moshe et il va être appelé beau-père de Moshe. Ça montre qu'il était lié fortement à Moshe. Ça veut dire que il avait confiance dans le Ribbono shel Olam comme Moshe. De la même manière que Moshe, il levait les mains vers le ciel dans la guerre contre Amalek pour montrer que lui, il avait entière confiance en Hachem. Même dans, on peut dire, les ténèbres que représentait la guerre matérielle. Et on avait l'impression que ça échappe complètement à la décision d'Hachem. Yitro, il a atteint ce niveau-là aussi. Et de la même manière que les Bnei Israël, avec les épreuves qu'ils ont eues dans le désert. Au début, ils ont vu le Gilui Shechina, Kriyat Yamsouf. Après, ils ont vu la guerre d'Amalek. Yitro, lui aussi, il a eu des Gilouim successifs, ces deux Gilouim successifs, Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek, dans cet ordre-là. Donc pour Yitro, Yad Yam Souf et Milchemet Amalek, c'était des choses fondamentales. C'était donc le coup de grâce, en quelque sorte, la fin réelle, la vraie sortie d'Égypte. Donc il a vu que, premièrement, le Ribbono Shel Olam est la seule force, et il est tout seul, donc il n'y a aucune autre force qui est absolument comparable à lui. Il n'a pas vu que le Ribbono Shel Olam, il est plus fort que le prince d'Égypte seulement. Parce que finalement, la victoire, elle était seulement sur le prince d'Égypte. D'où est-ce qu'on pourrait déduire qu'il est plus fort que tous les autres? Il a vu tout ce qui avait été, tout ce qui est écrit dans la Torah, dans Parshat Vaera. Comme Hachem l'a dit, Bavour, Teda, qui en kamoni bechol haaretz. Je vais faire des choses qui vont te faire comprendre que rien ne m'est comparable dans le monde entier. Ce qui veut dire, il n'y a aucune autre force autre qu'Hachem. En od milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Les autres sont effectivement des avocats, peut-être de très bons avocats, mais jamais que des avocats. Alors, maintenant, les autres miracles, comme l'aman, le ver, ils sont pour. Ils trouvent, en tout cas, ils étaient secondaires. Dans Télim, effectivement, il y a toute une explication dans Télim qui montre que, effectivement, ces autres miracles étaient négligeables complètement par rapport à Kriyat Yam Souf. Comme on a dit avant, que, OK, il nous donne la manne, mais est-ce qu'il pourra nous donner de la viande? Et ça, tout de suite après, ils réclament. Bon, ils ont de la viande, et ils ont du pain, de la manne. Ils disent non, là, on veut de la viande. C'est pas seulement qu'ils veulent de la viande. Vous voulez savoir, est-ce qu'il peut nous donner aussi de la viande? Les Bnei Israël, ils ont vu à la mer que Enod Milvado. Même Moshe Rabbeinu, ils ont vu que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas de puissance par lui-même. Il est, et ça, c'est ce qu'ils ont compris dans Kriyat Yam Souf, c'est marqué Ve'yaminu b'Hashem, c'est pas marqué Ve'yaminu b'Hashem ou Moshe. Ils ont Ve'yaminu b'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont bien compris que Moshe n'était que le Eved d'Hashem et que la Emouna d'Hashem, elle va sur Moshe parce qu'il est le serviteur d'Hachem et pas parce qu'il est Moshe. C'est quelque chose qui n'était pas très clair. Je crois qu'on avait déjà vu ensemble que dans l'histoire du veau d'or, si on peut dire, quand est-ce que ça commence à mal tourner, l'histoire du veau d'or, c'est bien avant qu'il fasse le veau. Vous vous souvenez, quand Moshe Rabbeinu n'est pas revenu à la seconde où il l'attendait, ils ont dit à Aaron, fais-nous quelque chose qui haïsh Moshe, l'homme Moshe, qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Quand ils ont dit ça c'était la porte ouverte pour le veau d'or. Pourquoi? Ben vous savez bien, le soir du Seder, vous dites explicitement que quoi? Ce n'est pas Moshe qui nous a sortis d'Égypte. C'est Hachem qui nous a sortis d'Égypte. Et quand ils disent Aïch Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, c'était déjà fichu. Ça veut dire en fait, ils ont divinisé Moshe à ce moment-là. Moshe Rabbeinu, il était toujours en risque d'être divinisé. Seulement quand il était vivant, il s'en défendait. Quand il est mort, c'est Hachem qui a fait en sorte qu'on ne savait pas où il était enterré, donc on n'a pas pu le diviniser. Le seul moment où ils ont pu, c'est dans ce court laps de temps. Le décalage entre le calcul que les Bnei Israël avaient fait et la réalité que Moshe Rabbeinu avait dit que il a commencé à les compter les 40 jours seulement quand des jours entiers et pas le il n'a pas compté le premier jour qui n'était que s'il est parti à 11 h du matin, ben, il n'y avait pas une journée entière. Alors il a commencé à compter depuis le lendemain et eux ils ont compté jour 1, le moment où il est parti. Et donc, il y a ce laps de temps de différence. Pendant ce moment-là, à ce moment-là, Hachem s'est pas occupé de Moshe et Moshe s'occupait pas de lui puisqu'il était sur le Sinaï. Il n'a pas empêché de le diviniser. Et ils l'ont divinisé d'abord par la bouche, en se trompant, en disant, c'est Moshe qui nous a sortis d'Égypte. Et donc finalement, Yitro et les Bnei Israël, ils ont fait la même trajectoire. La shmiya de ce que Yitro a entendu, c'était exactement ce que les Bnei Israël ont vécu aussi. Sauf que là, il y avait une petite différence, c'est que la madrega à laquelle ils sont arrivés, quand ils l'ont vu, alors que, donc c'est au moment en temps réel, tandis que Yitro, en fait, il a continué de penser d'une certaine manière faussement, tant qu'il n'a pas vraiment entendu les choses. Donc il ne les a pas entendues, il ne les a pas entendues en temps réel, obligatoirement. Il les a entendus vraiment tout ce qui s'est passé après coup. Il faut mettre Amalek, il a dû l'apprendre un peu après. Mais c'était le même processus. L'autre grand sujet, c'est évidemment Aseret HaDibrot. Mais auparavant, Yitro est revenu avec Tsipora et les enfants de Moshe. Il a été très très bien accueilli. Et le passouk dit, va s'appelle Moshe le Chotno. C'est le passouk 8, Fret. Il a raconté à son beau-père, et trop la chair à ça, Hachem le pharaon le Mitzrayim. Al Odot Israël, et kol atla, asher metzatam, baderech, veyatzilem, Hashem. Moshe a tout raconté à Yitro. Rashi dit, sur Vaisaper Moshe le Chotno, Rashi dit, limshoch et libo, le karvo la Torah. Moshe lui a raconté ça pour le rapprocher de la Torah. Ravolvé, il dit, pourquoi Rachid dit ça? Il ne peut pas dire autrement parce que Yitro, il avait déjà tout entendu, tu sais. Qu'est-ce que Moshe lui racontait? Lui raconte les raisons pour lesquelles il raconte quelque chose, c'était déjà la raison pour laquelle il est venu, donc qu'est-ce que tu lui racontes? Il a entendu tout ça. Alors lui, il disait que Moshe voulait le rapprocher de la Torah en lui racontant encore. On peut dire que Moshe lui racontait les choses qu'elles ont été vécues de l'intérieur. Que Yitro a entendu, c'est les choses qu'on savait à l'extérieur de ce qu'était la guerre contre Amalek, à l'extérieur de ce qu'a été la Kriyat Yam Souf. Mais Moshe peut lui raconter comment c'était vécu de l'intérieur. Ça, il l'a raconté et c'était vraiment nouveau pour Yitro. Donc, ça veut dire que ce récit était là aussi pour fortifier Yitro dans sa émouna. Parce que Moshe pourrait lui dire des choses que les gens ne savaient pas, les gens qui n'ont pas vécu la chose. Il y a des choses qu'ils ne savaient pas exactement, toute l'ampleur de tout ce qu'Hachem a fait pour les Bnei Israël. Et le problème, si vous voulez, c'est que le verset d'après nous dit que quand Yitro a entendu ce que Moshe lui a dit, Vaïchad Yitro al kol ha-tova asher asa Hachem le Israël asher itzilo miyad Mitzrayim. Et donc, Vayichad, c'est un verbe qui veut dire simcha, il s'est réjoui. Et Rashi dit comme ça, effectivement. Vayismach Yitro. Et Rashi dit ça, c'est le pshat. Mais le Midrash Agada, il dit autre chose. Le problème, c'est le Vayichad pour dire la simcha. C'est un mot très, je ne sais pas si c'est un apax, mais en tout cas, c'est un mot très peu fréquent. Yichad. Vaismar. Pourquoi on n'a pas dit Vaismar? Dit simplement Vaismar. Mais trop. Alors le Midrash Agada a dit, Nasebesaro chidudim chidudim. Il a attrapé la chair de poule. Had, ça veut dire pointu. Donc il avait des petites pointes, c'est la chair de poule. Yitro, quand il a entendu ça, il a attrapé la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'il était médecin à l'Iboud Mitzrayim. Quand il était triste, il souffrait un peu de la destruction de l'Égypte. L'armée égyptienne est complètement détruite. Donc toute la structure égyptienne a été bouleversée. Et il dit, ben, c'est ce que disent les gens, que quand quelqu'un s'est, même si effectivement Yitro s'était converti ici, mais il ne faut pas lui, même 10 générations plus tard, il ne faut pas être mevasé. Le peuple dont il est issu. Ça veut dire, le Rav Olin explique que même si Yitro était un très grand bonhomme, malgré tout, dans son cœur, il y avait quand même une proximité avec l'Égypte. Je vous rappelle que Yitro, même quand il a fui l'Égypte et qu'il était en Midian, quand Moshe est arrivé chez lui et que Moshe lui a raconté pourquoi il avait fui l'Égypte, il a mis Moshe en tôle. En tôle, ça voulait dire dans un trou où tu pouvais crever. Moshe a été sauvé parce que Tzipora, la fille d'Yitro, a nourri Moshe pendant 10 ans. Il était 10 ans au fond d'un trou. Donc Yitro, qui est quelqu'un qui a fui l'Égypte insupportable. Et Moshe lui a expliqué, probablement il lui a dit, comment il l'avait tué, pourquoi il l'avait tué. C'est pas simplement qu'il lui a passé quelque chose par la tête et il a tué l'Égyptien. Il a tué un Égyptien qui voulait tuer un Juif pour l'empêcher de dénoncer qu'il avait violé sa femme. C'est quand même pas... Voilà. On peut discuter, est-ce qu'il faut le tuer pour autant? Je sais pas, mais en tout cas, lui, il a décidé qu'il fallait le tuer. Et pas, le Bitro l'a mis dans le tour, il l'a mis en prison, quoi. Et donc il avait cette sensibilité, en fait.
Bon.
Donc le Rav Olin, il disait, il avait quand même une certaine proximité avec l'Égypte. Il s'est réjoui, c'est vrai. Mais dans l'inconscient, d'une certaine façon, Ça lui faisait mal. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de contradiction avec le pshat. Il s'est réjoui, c'est vrai. Mais avec toute cette simcha, il y avait quand même un lien avec son peuple. Et au fond de lui-même, il en a souffert. Cette proximité-là, elle est instinctive, disait-il. Et Chazal nous ont dit que ça reste 10 générations. La Torah, elle est émette, elle ne saute pas par-dessus, elle ne néglige pas même les choses les plus légères, en fait. Même des choses que probablement que Yitro n'était même pas conscient de pourquoi il a attrapé la chair de poule. À ce moment-là, il dit, maintenant je sais qui Godol Hashem Mikol Elohim, qui Badavar Asher Zadu Alem. Étant donné qu'Hachem a puni les Égyptiens par là où ils avaient fauté, là il a vu la grandeur d'Hachem. Il a fait en sorte que se retourne contre eux ce qu'ils avaient utilisé. Les Égyptiens, ils ont pensé qu'ils allaient détruire le peuple par l'eau, et c'est eux qui ont été détruits par l'eau. Alors, les Bnei Israël sont arrivés au pied du Sinaï. Et bon, Hachem a donné des directives, exactement comment il fallait se situer autour de ce Sinaï, pas mettre les pieds, pas monter sur la montagne, etc. Et puis ensuite, c'est marqué dans le texte, Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele les morts. Et après seulement, Anochi Hachem Elokecha, etc. Donc ça veut dire que Elohim a dit les choses, il a dit les paroles qui viennent là, les morts, littéralement, pour les dire encore, pour qu'on les redise. Rachid dit, Vaidaber Elohim. Pourquoi c'est pas Hachem? Pourquoi c'est pas marqué Vaidaber Hachem? Puisqu'après c'est marqué Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi c'est pas marqué Elokim? C'est Dayan, c'est la rigueur, la justice. Ici, c'est ce qui est dit, c'est d'une certaine manière toute la Torah. Et dans la Torah, il y a des parchiotes qui sont tels que si l'homme se conforme à ce qui est dit dans ses parchiot, il aura un salaire, et sinon, il va être puni. Par exemple, les korbanot. C'est pour ça que c'est marqué Elohim. Et kol advarim ha'ele, melamed she'amar kadosh baruch hu aseret hadibrot, bedibur echad, מה שאי אפשר לאדם לומר כן. הקדוש ברוך הוא הדי תות לדי פרול און אין סול פרול. דבור. Ce qu'évidemment personne ne peut faire et personne ne peut entendre ces 10 paroles quand tu les compa quand les compactes que compresses et tu les dis tout en même temps. Non, on ne peut pas le faire, mais à supposer qu'on ne peut pas l'entendre. Et donc, à quoi ça sert de nous raconter que Elohim a dit et pourquoi il les a dites tout ensemble? Puisque personne, il aurait dit là quelque chose que personne ne peut entendre. Mais la Torah nous dit, c'est important visiblement qu'on sache, que avant d'être déployées en quelque sorte, ces 10 paroles, elles ont été dites de façon compacte. Ça veut dire Matan Torah, c'est ça. C'est quoi? C'est le moment où on nous a donné toute la Torah, puisque la Seret HaDibrot, ça représente toute la Torah de façon compressée. Voilà, c'est à la limite réduit à une parole, un mot. Le reste, si c'est ça la Torah, alors le reste c'est des explications. Déjà, quand on déploie, c'est déjà une forme d'explication, d'explicitation des choses. Mais ça veut dire, bien entendu, d'abord, que l'ensemble des 10 paroles forme un tout. C'est-à-dire, premièrement, que tu ne peux pas faire ton marché là-dedans. Tu ne peux pas dire, je prends cette mitzvah, cette parole, oui, celle-là, non. Bon, c'est ce qu'ont fait, évidemment, par exemple, les chrétiens, ils ont fait leur choix, puis en plus, ils ont introduit des choses pour remplacer les choses qu'ils ne voulaient pas. On dit aussi que toute la Torah était en quelque sorte compressable ou compressée dans le mot Anochi, dans le premier mot de la première phrase, le premier dibour. Certaines manières, c'est dans l'impression que c'est le Chesed d'Hachem qui nous a expliqué ce qu'il avait dit, quoi, quelque part. D'une certaine manière, ça veut dire que d'une certaine façon, on devrait entendre toute la Torah quand il l'a dit Anochi. Avec Anochi tout seul, ça suffit pour qu'on comprenne tout le reste. C'est-à-dire que la Torah, c'est quelque chose d'autre que ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qu'on peut entendre dans Anochi. Quand Hachem dit Anochi, ça doit faire tilt. C'est un peu difficile de comprendre ce que ça peut vouloir dire, en fait. Alors, Hachem a dit dans la première parole, il a dit Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Mibet Avadim. Et Rashi dit sur Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Kedai hi Aotsaa, Shetiyu Meshuabadim li. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est marqué Elokecha? Pourquoi c'est pas marqué Elokim? Anochi, Hashem, Elohim. Pourquoi ce Elokecha? Pirusho, que nous sommes en fait les esclaves d'Hachem, et il met sa présence divine sur nous. Et d'où est-ce qu'on sait tout ça? Ben, c'est ça, tout ça, ça vient de Yetziat Mitzrayim. Le fait qu'il nous a fait sortir d'Égypte, c'est déjà suffisant pour que nous soyons ses serviteurs. Il nous a mis au monde d'une certaine manière. On était quasiment mort. Un esclave, il n'existe pas complètement. Et donc, il nous a fait sortir. D'accord. Eh bien, de ce fait même, on doit le servir, quoi. On doit faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, si on veut, c'est une espèce de fondement de son autorité sur nous. Et Rabbi Yehuda Lévi demande, pourquoi Hachem n'a pas dit Anochi Hachem Elokecha Shebarati et Taolam? Je suis Hachem ton Dieu et j'ai créé le monde. Pourquoi il dit je vous ai sorti d'Égypte? Alors on peut dire que j'ai créé le monde, c'est vrai que c'est beaucoup plus grand, mais d'une certaine manière, ça dit rien à personne. Parce que, d'accord, tu as créé le monde. D'abord, on n'était pas là, on ne l'a pas vécu, d'une certaine manière, et puis d'autre part, et alors, tu as créé le monde. Quand il leur dit, je vous ai sorti de Mitzrayim, ils viennent de le vivre. On est à 50 jours de la sortie d'Égypte. Et donc, bon, quand il leur dit, Hachérot, c'est voilà. Le problème dans la Haggadah de Pessah, je répète sans arrêt, mais c'est le récit de la sortie d'Égypte. Mais en vérité, on raconte jamais la sortie d'Égypte. Il n'y a rien dans la Haggadah qui nous dise comment on est sorti d'Égypte. On nous dit ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et sur la sortie elle-même, on nous dit, il s'est pas agi à ce moment-là ni d'un changement de dynastie, ni d'un tsunami, ni d'une révolution. Ni de la décolonisation, ni tout ce que vous pouvez imaginer, c'était pas ça. Elle a, HaKadosh Baruch Hu bichvodo batsmo, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. En disant qu'il nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est une façon de dire, vous n'en avez aucune idée. Vous ne saurez jamais comment vous êtes sortis d'Égypte. De toute manière, c'est impossible de sortir d'Égypte tout un peuple en quelques heures. Ça n'existe pas. Mais ça s'est fait. Hachem l'a fait. Hachem, il a des moyens de faire des choses dont nous n'avons même pas idée, en fait. C'est pas que nous, on pourrait pas le faire. On n'a même pas, on sait même, on n'a pas d'imagination suffisante pour penser comment ça s'est fait. Mais ça n'a pas d'importance. Ça s'est fait, et c'était vraiment comme une naissance, de la même manière qu'on ne sait pas exactement comment se déclenche la naissance. En tout cas, on ne la maîtrise pas complètement. Et là, on ne maîtrise pas du tout cette naissance. On ne sait pas du tout comment ça s'est fait. Mais c'est Hachem qui l'a fait. Et donc, d'une certaine manière, on était esclaves de Paro. Et Hachem nous a acquis, nous a achetés auprès de Paro. Donc, on a passé d'un maître à l'autre. Sauf qu'il y avait un maître qui était mauvais pour nous. Et on a passé dans la dépendance d'un maître qui est bon pour nous, qui veut notre bien. Si c'est Ça change tout. Mais en fait, il est notre maître. C'est ça. Et ça vient de la sortie d'Égypte. C'est vrai que on dit dans la Amida, dans la première bracha, on dit qu'on est à col. Hachem, il a tout acquis, ça veut dire tout est à lui parce que il nous a créés. Parce qu'il a créé le monde. Ici, dans la Sereta Dibrot, on dit que c'est la fondation, c'est de cette autorité, de cette situation de dépendance que nous, dans laquelle nous sommes par rapport à lui, ça vient de sortir d'Égypte. Voilà, on s'arrête là.
Merci, Rav.